Ce balado est présenté par la Clinique du PEPS de l'Université Laval, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec, avec plus de 50 professionnels dans 15 services. Une clinique accessible à tous, à tous les niveaux, pour les gens actifs. Desjardins est fier de s'associer à cet épisode du balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval afin de freiner l'exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité. Sensibiliser nos aînés au risque de fraude, c'est investir au-delà de l'argent. Bon épisode! Bienvenue au balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je m'appelle Jean-Sébastien Sirois et j'animerai cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Samuel Turcotte, professeur sous octroi adjoint à l'École des sciences de la réadaptation de la Faculté de médecine, également chercheur boursier au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale au CIUS de la Capitale-Nationale et membre régulier de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. J'accueille aussi Mireille Fortier et Frédéric Desjardins, tous deux professionnels de recherche à l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Mireille, Samuel, Frédéric, bonjour.
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 Je vous propose de commencer par un tour de table, question de savoir un peu qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'inclusion sociale. Peut-être commencer par Samuel.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ergothérapeute de formation. J'ai diplômé à l'Université Laval en 2014. J'ai fait mes études supérieures aussi sur la notion du handicap, du soutien à l'intégration sociale, à la participation sociale chez les gens qui ont des incapacités comme sclérose en plaques ou blessures médulaires. Et puis, depuis 2023, je suis professeur, c'est ça, donc à l'Université Laval. Et puis, ma programmation de recherche porte sur le soutien à la participation sociale et la promotion du vieillissement en santé des gens qui ont des incapacités, finalement.
Et d'où provient justement cet intérêt pour l'inclusion sociale?
Oui, mais je pense que je faisais la réflexion justement la semaine dernière là, sur mes racines un peu. Puis je pense que ça vient un peu de mes parents, en fait, sans vouloir avoir l'air
Têteux,
oui, c'est ça. Ma mère a travaillé dans le milieu de la santé comme infirmière toute sa vie, et puis mon père, lui, dans le milieu communautaire. Donc je trouve que de relier le milieu communautaire et de la santé ensemble, je pense que c'est un petit peu ça que je fais, en fait, là, par mes projets de recherche.
Excellent. Et de votre côté, Mireille?
Oui, bien moi, en fait, j'ai un bac en anthropologie et présentement, je suis la coordonnatrice de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Et mon métier, en fait, c'est professionnel de recherche. Alors, je travaille avec plusieurs chercheurs là, sur différents projets qui touchent la participation sociale et l'inclusion sociale des personnes aînées. Et si je peux continuer aussi sur mes études, là, j'ai aussi fait une maîtrise en anthropologie et un certificat en gérontologie. Donc, ça m'intéressait là, de réfléchir sur le vieillissement de manière générale, mais aussi sur l'éthique de manière plus particulière. Puis, lors de ma maîtrise, je me suis intéressée à l'âgisme. Mm-hmm.
Très bien. Et de votre côté, Frédéric?
Oui, je suis coordonnateur de projet pour l'IVPSA. Coordonnateur d'un projet qui se déroule dans Charlevoix, la démarche collective pour l'inclusion sociale des personnes aînées. Mon bagage, j'ai un baccalauréat en anthropologie. J'ai par la suite réalisé un DESS en andragogie. Ensuite, quelques expériences, quelques années de travail au sein d'organismes communautaires, puis par la suite dans les municipalités, donc le domaine municipal. Puis je suis arrivé il y a quelques années à l'Institut là, pour travailler là, plus spécifiquement l'inclusion sociale des personnes aînées. Quand je fouille un peu, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'inclusion sociale, c'est vraiment une sensibilité face aux injustices sociales, aux inégalités, probablement de par mes expériences au sein des organismes communautaires, là, notamment.
Avant d'aller plus loin, définissons quelques concepts. L'inclusion sociale des aînés, qu'est-ce que ça implique exactement, Mireille?
En fait, je vais utiliser une définition qui vient du gouvernement fédéral, du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, là, qui est un programme qui nous a soutenus là, dans différents projets. Donc, l'inclusion sociale des personnes aînées, c'est la capacité de participer pleinement à tous les aspects de la société, d'y contribuer et d'en tirer parti. Donc, c'est une définition très, très large, mm-hmm. sur laquelle on s'appuie. Mais on pourra en parler un peu plus tard, là. On pourra décortiquer un peu qu'est-ce qui nous amène à l'inclusion, mais surtout les facteurs qui facilitent cette inclusion-là, mm-hmm. ou qui peuvent nuire à l'inclusion.
Très bien. Et si on parle de participation sociale, comment on définit le terme et pourquoi est-elle si importante?
Oui, bien, la participation sociale, en fait, elle est essentielle parce que c'est un déterminant qui est majeur et surtout modifiable, donc sur lequel on peut intervenir pour promouvoir le vieillissement en santé, mmh. et l'inclusion sociale également. Et puis, il y a beaucoup de parallèles. Tu sais, les frontières sont perméables entre la définition de l'inclusion sociale et de la participation sociale. Mais si je résumais, en fait, pour moi, la participation sociale, c'est le fait de faire les activités, en fait, qui sont signifiantes pour nous, qui nous font du bien et qu'on a du bonheur à faire, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, dans la collectivité, et de le faire avec les personnes, les gens avec qui aussi, dans le fond, on a des relations là, qui sont importantes et ou réciproques.
Et je pense qu'on en parlera plus tard un petit peu, mais l'âgisme et le capacitisme, si on pouvait aussi définir ces deux concepts?
Oui, l'âgisme, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Ça se rapporte à une discrimination, comme on entend parfois le sexisme ou le racisme. Mm-hmm. Puis là, cette fois-ci, j'utiliserai une définition plus proche de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça se rapporte aux pensées, aux stéréotypes, aux sentiments, donc les préjugés, aux comportements, la discrimination, à l'égard des autres ou de soi-même en fonction de l'âge. Mm-hmm.
D'accord. Et en ce qui concerne le capacitisme?
Oui, bien en fait, c'est dans la même lignée que bon, tout ce qui est âgisme, sexisme, racisme. C'est au niveau, par contre, des capacités, des fonctions du corps. En fait, le capacitisme là, va être, en fait, toutes les attitudes, le système, en fait, qui va faire de l'oppression aux gens qui ont des corps qui sont différents, mm-hmm. des fonctions qui sont peut-être différentes, en fait, qui sortent de la norme. Donc, le capacitisme va surtout ériger la personne, en fait, qui a un corps... je ne vais pas dire normal, parce que ce n'est pas le bon mot, mais, non, mais qui n'a pas d'incapacité, là, comme étant le corps valide ou la personne qui a plus de valeur. Fait qu'on peut penser à un exemple de capacitisme, c'est de voir quelqu'un parler avec une infantilisation à quelqu'un, exemple, qui est en fauteuil roulant ou qui mm-hmm. a des incapacités. Là.
D'accord. Mireille, je le disais en introduction, vous êtes professionnelle de recherche à l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Parlez-nous de la mission de l'Institut et de la recherche que vous y faites.
Oui, ben en fait, à l'Université Laval, il y a plusieurs instituts. Le nôtre s'intéresse vraiment au vieillissement et à la participation sociale. C'est un institut qui est dirigé par Émilie Raymond, là, qui est à la Faculté des sciences sociales. Et il y a eu longtemps eu une co-direction là, qui avait à la fois sciences sociales et santé. Il y avait Dr. André Tourigny là, qui était co-directeur pendant une dizaine d'années. Et c'est beaucoup à partir de ces travaux là, où on peut discuter aujourd'hui. On discute en fait à partir de beaucoup de ces travaux et on travaille sur ces projets de recherche, là, Frédéric et moi. Donc, l'IVPSA, ça regroupe des chercheurs de l'Université Laval, donc une trentaine de professeurs, c'est les membres réguliers. Il y a aussi les membres associés, c'est d'autres professeurs qui s'intéressent aussi au vieillissement et à la participation sociale, mais dans une moindre mesure. Les membres associés, c'est aussi des professionnels de recherche, là, comme Frédéric et moi. Mm-hmm. On a plusieurs membres étudiants, donc une cinquantaine d'étudiants de l'Université Laval qui travaillent sur des sujets liés au vieillissement et à la participation sociale. Et il y a aussi ce qui nous caractérise peut-être un peu, qui nous rend un peu différents là, par rapport aux autres instituts, c'est qu'on a beaucoup de membres partenaires. Donc, c'est des organismes communautaires, c'est des gens aussi des milieux gouvernementaux. Donc, ça nous permet de faire des projets de recherche en collaboration avec ces organismes-là, entre autres. Pour ce qui est de notre mission, donc on a une mission de vraiment faire le lien entre ce qui se fait à l'université et ce qui se passe sur le terrain, mm-hmm. là, si je vulgarise oui. rapidement. On regroupe en fait toutes les personnes à l'Université Laval qui s'intéressent à ces questions-là. Donc on favorise les collaborations entre les chercheurs, les étudiants, les professeurs et les membres de la communauté pour mener des projets qui s'intéressent à la participation sociale et au vieillissement.
Samuel, parlez-nous de vos travaux et peut-être de ce que vous faites au laboratoire Vivant Adapte ta vie notamment.
Ah ben oui, avec plaisir. En fait, c'est ça. On a bâti avec différents collègues et puis l'équipe justement d'AdaptaVie, qui est un organisme communautaire qui soutient en fait la activité physique adaptée, la participation sociale des gens qui ont des incapacités. On a mis en place un écosystème de partenaires, en fait, qui comprend notamment bon, la Ville de Québec, le CIUS de la Capitale-Nationale, des partenaires du milieu communautaire, associatif, privé et universitaire, notamment de McGill et de l'Université Laval, où, en fait, on vise à co-créer des solutions à partir des savoirs, oui, scientifiques, mais aussi expérientiels, des gens qui ont des incapacités, de leurs proches et du terrain, donc des intervenants, des gestionnaires, des coordonnateurs, des différents milieux qui offrent ces services-là. Puis on met tous ces savoirs-là ensemble, en fait, pour co-créer des solutions qu'on prétend, en fait, vont être justement plus pertinentes et utiles, car elles sont issues des besoins là, des gens pour qui on les développe et avec qui on les développe. Donc, c'est vraiment un écosystème de collaborateurs où on fait de la co-création de solutions, de savoirs pour développer des solutions terrain qui sont applicables le plus possible et moins tablettables, si je pourrais dire.
Parlons maintenant des constats, à commencer par le vieillissement de la population. Quelles sont les données et les observations qui sont à la source de vos recherches?
Bien, je peux peut-être y aller sur le vieillissement en général. Là. Bon, on n'est pas des démographes, là, fait qu'on va y aller de façon très générale. Là. On sait qu'il y a environ 20 % de la population au Québec qui ont plus de 65 ans. Donc, ça donne un nombre quand même impressionnant là, de 1,75 million de personnes. On sait aussi que le Québec et la population du Canada aussi a vieilli très rapidement. Donc, il y a d'autres pays dans le monde où il y a 20-25 % de la proportion de la population qui est aînée, qui fait partie des personnes aînées de 65 ans et plus. On sait qu'il y a d'autres pays là, qui ont ces mêmes proportions-là. Ce qui est particulier au Québec, c'est que nous, on a atteint ce niveau-là très rapidement. Donc, ça nous demande une adaptation un petit peu plus rapide.
Peut-être que je pourrais faire le parallèle avec au niveau des incapacités, mais parallèlement au vieillissement de la population, on a vu aussi au Canada, en fait, une augmentation de la prépondérance des incapacités, c'est-à-dire des incapacités, donc des problématiques au niveau physique, cognitif, communicationnel qui ont un impact finalement sur notre participation sociale ou sur qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie de tous les jours. Et puis ça a augmenté, en fait, là, de manière quand même signifiante là, depuis 2017, mais c'est sans surprise parce que plus on vieillit, donc plus on a d'incapacités. Donc avec le vieillissement démographique, bien évidemment que la quantité d'incapacités proportionnellement suit. C'est important, en fait, de le savoir parce que quand on a des incapacités, bien évidemment que ça a un impact sur notre capacité à participer socialement, donc à vieillir en santé, puisque moins on s'engage, bien plus c'est difficile de rester actif et en santé.
Ma prochaine question, elle est vaste et elle s'adresse à vous trois, puisque vous aurez certainement des éléments de réponse complémentaires. Quels sont les moyens et les facteurs qui favorisent l'inclusion sociale?
Bien, moi, j'aurais le goût de faire comme un pas en arrière, mais pas...
Pas de recul?
Oui, pas pour vrai. Quand on parle d'inclusion sociale, nous, ça nous amène aussi à réfléchir à l'isolement social. C'est pas le contraire, hein? L'isolement, c'est pas le contraire de l'inclusion. C'est juste, disons, une autre façon de regarder la situation. On sait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont en situation d'isolement social. On fait aussi la différence avec la solitude. La solitude, c'est plus un sentiment. Donc, on fait la différence entre les deux, mais on sait que ça touche quand même plusieurs personnes aînées. Puis, on sait aussi que ça a des impacts sur la santé. Fait que c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, à l'inclusion et à l'isolement social. Puis, tantôt, je parlais de Dr. André Tourigny, qui est un médecin en santé publique qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là puis qui a travaillé sur ces questions-là dans la région de Québec, dans différents projets, dont un projet là, qui est dans Charlevoix, qui est mené par Frédéric. Mais bref, ce qui est important aussi quand on regarde les questions liées à l'inclusion, c'est de regarder ce phénomène-là de l'isolement social. Parce qu'on a quand même des chiffres intéressants. Là. Il y a quand même 26 % des personnes aînées au Canada qui ont le sentiment de manquer de compagnie. C'est beaucoup de gens, ça, qui se sentent seuls. Fait que ça, c'est le sentiment de solitude.
Solitude, oui, exact.
Puis quand on regarde l'isolement, il y aurait entre 16 et 24 % des personnes qui sont isolées socialement, donc qui ont peu de contacts significatifs.
Puis, pour ajouter sur ce que Mireille évoque aussi, en fait, là, c'est d'autant plus pertinent de s'intéresser à ces questions-là ces temps-ci avec l'effritement social qui s'accentue pour différentes raisons avec, on peut penser aux réseaux sociaux, à la montée de certaines tensions politiques, des attitudes sociales, en fait, de discrimination envers la diversité de différents ordres qui revient en force alors qu'on pensait qu'on allait par en avant. Force est de constater qu'il y a certains reculs à ce niveau-là. Alors voilà, c'est sachant que ça a un impact aussi important sur la santé. Puis tu sais, être isolé socialement, c'est sentir qu'on est seul, donc sentir la solitude. C'est pas juste de se sentir seul et puis l'effet de dire « Ah, j'ai moins de bien-être, je me sens seul, je suis triste », c'est aussi ne pas avoir de ressources, ne pas pouvoir demander d'aide, ne pas pouvoir cogner à la porte de son voisin. Donc, c'est tout ça aussi. C'est pas juste la dimension quantitative ou affective de se sentir seul ou d'avoir personne autour de soi. C'est aussi l'impact de ça sur la santé et la capacité, justement, à vouloir faire ce qu'on veut faire dans la vie de tous les jours, finalement.
Ouais. Et qu'est-ce qui influence, justement, quels sont les facteurs qui influencent l'isolement social? Comment on l'observe et quelles sont les caractéristiques communes, disons, aux gens qui sont un peu plus isolés socialement?
Il y a plusieurs facteurs, hein. Ils sont multiples. Donc, on est face à une problématique complexe. Puis il y a tout un spectre, hein, de l'inclusion à l'exclusion ou à l'inverse. Et puis, sous différents facteurs, on peut se sentir inclus et sous d'autres, exclu. Tout dépendant de sa situation, cette situation-là peut nous mener à une plus grande vulnérabilité. Donc, une problématique complexe qui fait intervenir, qui est influencée là, par plusieurs dimensions, plusieurs facteurs, et puis qui nécessite l'intervention aussi, qui interpelle plusieurs acteurs qui apportent leur expertise. Là. Samuel parlait tantôt de co-construction. Donc, de la nécessité de faire intervenir les acteurs sociaux, les organismes communautaires, les CIS, les CIUS, les municipalités, donc les acteurs de différents paliers pour répondre à cette problématique complexe, donc pour avoir un regard 360. Et puis, je pourrais poursuivre avec un des facteurs, c'est ce qui permet d'influencer ou de favoriser l'inclusion sociale, c'est la participation à des activités, de loisirs ou de participation sociale. Là, je peux penser à l'adhésion aux clubs sociaux. Mm-hmm. On pense de façon naturelle au club FADOC, le cercle des fermières, mm-hmm. Mais il y a autre chose. Il y a des clubs de minéralogie, d'horticulture, il y a des clubs d'observation d'étoiles. À part ça, il y a les loisirs culturels, sportifs, loisirs communautaires, d'engagement bénévole. On a tendance à oublier souvent la participation civique ou politique comme si ça s'éteignait ça avec le vieillissement. Puis on l'a observé, au contraire, c'est toujours bien vivant malgré le fait qu'on vieillit, mais la militance pour une cause environnementale, la participation à un mouvement politique, le vote, le droit d'exercer le vote à différents paliers, participer aux des délibérations politiques, puis d'avoir envie de participer, prendre part à la recherche de solutions aux problématiques qui nous touchent directement. Mm-hmm. Donc c'est ce que j'aurais envie de dire. Je ne sais pas si vous voulez réagir, vous. Là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis en complément avec ce que tu dis, Frédéric, je trouve aussi que l'inclusion sociale, pour être inclus, il faut une affiliation, il faut un sentiment d'appartenance à une collectivité, à un groupe, à une communauté. Puis ça, malheureusement, ça n'arrive pas en criant soleil. Fait que, il faut, comme tu évoquais, dans l'environnement, dans la collectivité, dans le quartier, qu'il y ait des opportunités pour s'engager, comme tu nommais, exemple, le club des minéralogies ou des trucs du genre, pour qu'on ait des motivations, des opportunités de sortir de chez soi puis de s'engager dans des occupations, activités qui font du sens pour nous, qui nous permettent de mobiliser nos forces, qui nous permettent de se sentir compétents, d'avoir du plaisir et de rencontrer des gens. Donc, il y a ça, les opportunités dans l'environnement, qui est un facteur, évidemment, qui influence la capacité à être inclus ou pas socialement. Est-ce qu'il y a la possibilité de le faire? Il y a aussi toutes les infrastructures, donc, tu sais, les politiques, tout ce qui est plus au niveau de l'environnement physique. S'il y a quelqu'un qui a des incapacités au niveau de la déficience visuelle, par exemple, est-ce que les traversées piétonnes sont sécuritaires dans le quartier pour dire que, s'il y a le club des minéralogies, est-ce que j'ai m'y rendre en me sentant en sécurité ou pas. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs. Puis les autres éléments aussi à considérer au niveau de l'inclusion sociale. Puis je ne sais pas, Mireille, après, si tu vas vouloir compléter, mais tu as toutes les dimensions au niveau socio-économique, au niveau de l'éducation, au niveau des revenus. Peut-être que là, le club des minérologies, il est gratuit, mais s'il y a un coût, ben, il faut de l'argent avec ça. Fait que là, est-ce qu'on peut se l'offrir? L'ethnicité, la langue, l'orientation sexuelle, le genre, sont tous des éléments à considérer qui peuvent influencer finalement l'inclusion sociale des aînés.
Et il y a peut-être aussi l'offre de formation adaptée pour rester actif, justement, intellectuellement, qui peut être une source de solution. Est-ce que nos cégeps, nos universités ont une responsabilité dans l'inclusion sociale de nos aînés?
Bien, c'est sûr que l'éducation et les compétences influencent la capacité à participer socialement et à être inclus au final. Puis là, on peut parler peut-être de la littératie, hein, la capacité à comprendre ce qu'on lit, ce qu'on peut apprendre, en fait. Mm-hmm. Par exemple, la littératie informatique ou la numératie. Donc, ça, c'est des facteurs importants. Quand on parle, par exemple, avoir accès à un club, ben il faut aussi qu'on sache qu'il existe ce club-là, puis ça se passe sur Internet. Mm-hmm. Donc, si on n'a pas la capacité à naviguer sur Internet ou avoir même accès à un ordinateur, bien, des fois, ça peut nous couper quand même plusieurs occasions de participation. Donc, il y a des compétences de base, effectivement, qu'il faut avoir et qu'on peut acquérir, hein, en vieillissant. Il y a toujours moyen de continuer d'apprendre. Mm-hmm. Tout ce qui est connaissance des technologies de l'information, comme je nommais, mais aussi avoir accès à de la formation complémentaire. Et ça peut être à différents niveaux. Hein. Ça peut être au niveau universitaire avec l'université du troisième âge. Mais il y a toutes sortes de cours, apprentissage des langues, sur toutes sortes de sujets aussi qui peuvent aider là, à l'inclusion sociale.
Mm-hmm. Ouais. Puis n'oubliez pas non plus que l'inclusion, on parle de l'inclusion sociale des aînés avec ou sans incapacité, mais cette inclusion-là, elle est influencée aussi par les attitudes de la société en général, donc des personnes de tout âge. Fait que je pense qu'au niveau de l'éducation, pour mettre le fardeau juste sur cette tranche large-là de la population, mais sur tout le monde. Donc, c'est important aussi d'éduquer aux jeunes, aux moins jeunes aussi, bien, c'est quoi les attitudes discriminantes? Qu'est-ce que c'est l'âgisme? Qu'est-ce que c'est le capacitisme? C'est quoi les compétences de ces attitudes discriminantes-là sur la santé des populations qui en sont victimes? Je pense que ça, on a un rôle à jouer dans nos institutions d'enseignement, mais au-delà de ça, tu sais, je pense dans nos foyers, avec nos amis, nos familles et tout. Là,
effectivement, il y a un volet éducation 100%. Au sein de la population pour justement éviter cette discrimination-là dont sont victimes souvent les personnes un peu plus âgées. Quand nos aînés sont davantage inclus et impliqués au sein de la communauté, qu'est-ce qu'on observe comme effet?
Je pense que tout le monde y gagne, en fait. Là, on le met en début de balado. Participer socialement, avoir une cohésion sociale, éviter que le tissu social s'effrite. Tout le monde gagne parce qu'on a une société qui est plus solidaire. On a une société où est-ce que tout le monde est bienvenu, où il y a moins de discrimination, donc où tout le monde peut collaborer et apporter son grain de sel, puis au final, ben, contribuer à ce qui est important pour contribuer, dépendamment de où t'es, puis de qu'est-ce que tu veux faire comme projet. Mais assurément que faire de la place à nos aînés davantage, reconnaître, en fait, leur savoir, reconnaître leur expérience. Je pense que la société va y gagner parce qu'on a énormément à apprendre de tous, autant les aînés des jeunes que les jeunes des aînés.
Mmh. Oui, puis j'ajouterais que les travaux sur l'isolement, hein, tantôt on en parlait, nous indiquent quand même qu'il y a des conséquences sur la santé des personnes aînées quand ils ne sont pas dans un processus d'inclusion. Puis ces impacts-là sont parfois au niveau de la santé psychologique, mais de la santé physique aussi. Fait que, par exemple, là, t'sais, au niveau psychologique, on peut avoir t'sais, une auto-dévalorisation, se sentir inutile, avoir de la difficulté à rentrer en contact avec les autres. Puis sur le plan physique, de la santé physique, il peut y avoir même une augmentation des problèmes cardiovasculaires parce que on ne se met pas en action, on a de la difficulté à sortir, par exemple. Mm-hmm. Puis il peut y avoir même la difficulté à avoir accès à une bonne alimentation. Fait qu'il peut avoir même des problèmes physiques à ce niveau-là quand on ne travaille pas justement sur l'inclusion. Peut-être que je reprendrai votre question.
Oui.
Vous avez dit nos aînés.
Oui.
Bien, en fait, nous, on essaie d'utiliser le terme « les aînés ».
OK.
Parce qu'en disant « nos aînés », c'est comme si on s'appropriait ouais. ce groupe-là. Puis en fait, les personnes aînées elles-mêmes nous le disent
ah ouais.
Qu'elles n'aiment pas ça, appartenir à quelqu'un. Elles sont autonomes et... c'est ça. Une des caractéristiques de l'âgisme, là aussi, c'est quand on met tout le monde dans le même panier, hein,
ouais.
puis qu'on voit mmh. les personnes aînées de manière homogène, mmh. quand on sait qu'il y a une très grande diversité. Fait que quand on dit nos aînés, là, ça les met encore plus dans le même paquet. Ouais. Ben, en fait, c'est plein de bienveillance aussi, nos aînés. Mais des fois, la
moi,
bienveillance...
Moi, je le sentais plus inclusif
oui,
un petit peu, mais alors que finalement...
Oui. Mais ça me fait penser à l'idée de la bienveillance. Le discours discriminant, les attitudes discriminantes ne sont pas faites de manière intentionnelle toujours, ne sont pas faites pour être méchantes. C'est un bon exemple, justement, de nos aînés. À même titre que si quelqu'un est en fauteuil roulant, exemple, là, il, je sais pas, Gary Charlebourg pour dire quelque chose, puis là, il y a une tempête de neige ce jour-là, puis il se fait demander 15 fois dans le même avant-midi, « Vous avez pas mis vos pneus d'hiver? » Ben, tu sais, c'est une blague humoristique, mais ça se peut qu'après 20 ans, à chaque fois qu'il y a une tempête, que tu sois écœuré de te le faire rappeler que t'es en fauteuil roulant, que tu sois écœuré de te faire faire la blague, même si elle se veut bienveillante.
Oh,
puis je me remets de partager cette histoire-là parce que c'est un de nos citoyens partenaires avec qui on collabore dans le laboratoire vivant Adaptavie qui nous a partagé cet exemple-là. Là. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est ça, c'est pas toujours volontaire.
Mm-hmm.
Mais de s'en rendre compte, ça, c'est important.
Ben oui, ça fait partie des barrières. Imaginez si on était en mesure, on avait la capacité d'abattre toutes ces barrières à l'inclusion sociale. Ça mm-hmm. voudrait dire qu'on aurait des citoyens, tous les citoyens contribueraient à leur, à leur juste titre, à leur juste part à la société. Puis bien au-delà d'une contribution, est-ce que la contribution est vraiment essentielle? Dans le fond, c'est de respecter la personne dans toute sa dignité. Puis on n'a qu'à imaginer le parcours quotidien de ces personnes-là. La dentelle, je parle de dentelle, mais c'est plutôt... c'est un grand défi d'organisation là, quand on vit avec des défis de mobilité. Mm-hmm. Imaginez le parcours semé d'embûches là, mm-hmm. Sur le plan des aménagements urbains. Hein, les trottoirs, t'en as parlé, Samuel. Est-ce qu'ils sont bien entretenus, déneigés? Est-ce qu'il y a des bancs? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce que la rue est apaisée? Quoi? Ou convivial. On a parlé d'accessibilité financière. Il y a la question des horaires aussi. Les horaires, tu sais, qui sont souvent axés sur des horaires de bureau. Mais bon, les activités permettent-elles une participation de soir ou de fin de semaine où tout tombe pour ces personnes-là, les services, les activités. Donc, une fois qu'on a passé, disons qu'on a franchi ces aménagements urbains qui sont parfois hostiles, ben, on peut arriver dans une organisation, un lieu où se déroulent les activités avec des obstacles. Quelques marches, une toilette qui n'est pas accessible. Donc, puis on peut par la suite se buter à des attitudes qui sont discriminantes à plusieurs égards. Puis quand il y a un cumul de discrimination, que ce soit l'âgisme, le capacitisme, imaginez l'effet que ça a. On a peut-être le goût de se retirer, puis il y a vraiment, Mireille le dit, des effets néfastes sur la santé et puis l'inclusion.
Puis tu sais, je suis scientifique, fait que je veux plugger une de mes études.
Oui.
On a fait une étude avec mon équipe, en fait, là, sur comment est-ce qu'on peut soutenir l'inclusion des aînés qui ont des incapacités dans les milieux du sport et du loisir.
Mm-hmm.
Puis pour ce faire, on a parlé avec plus de 150 personnes de toutes les régions administratives de la province pour savoir, ils sont où vos besoins, ils sont où vos défis pour rendre inclusif, en fait, là, vos services, que ce soit bon, des services privés dans des résidences, dans le milieu communautaire, dans des milieux associatifs, pour que les aînés qui ont des incapacités puissent venir. Mm-hmm. Là, on a eu un petit peu de tout. On a des gens qui, nous, on n'a pas de besoin d'adaptation, on n'a pas d'aînés qui viennent avec des incapacités.
Ouais.
Fait que là, ça peut lever un petit flag. Dans ce temps-là, peut-être qu'il y aurait place à amélioration. Mm-hmm. Mais sinon, pour ceux qui sont un petit peu plus conscients, en fait, des limitations à ce niveau-là, ce qu'ils nous ont rapporté principalement, c'est que parfois, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment aborder. L'inclusion, là, ça n'a pas besoin de coûter cher. Tu n'as pas besoin d'adapter une salle de bain parfaitement, nécessairement. Évidemment, c'est là, tant mieux, mais ce n'est pas vrai qu'on a les ressources pour le faire partout, dans tous les établissements, dans toutes les ressources. Mais juste d'apprendre au niveau du savoir-être, de l'interaction, puis d'être comme intervenant, dire comment est-ce que je peux faire pour t'aider? Exemple, tu as une déficience visuelle ou tu as un handicap ou tu as une douleur chronique au bas du dos, ou je ne sais pas. Comment est-ce que je peux adapter mon activité? Comment est-ce que je peux adapter?
Pas nécessairement faire au meilleur de notre connaissance, mais de poser la question.
Justement, de le demander, d'adopter une posture de vulnérabilité au lieu d'avoir peur, puis d'avoir peur de faire pire. juste oui. aller vers l'autre, demander oui. pour être capable de mieux inclure, puisque c'est l'autre personne qui va te dire qu'est-ce que l'autre a besoin finalement.
Absolument. Est-ce que vous voyez des initiatives naître justement pour favoriser l'inclusion sociale? Parce que là, on parle des enjeux, on parle de discrimination. Est-ce qu'on parle peut-être pas suffisamment d'inclusion sociale aujourd'hui, alors qu'on aurait tout avantage à le faire? Et justement, quelles sont les initiatives qu'on voit naître?
Bien, je dirais peut-être un petit mot sur l'initiative pour l'inclusion sociale des personnes aînées dans la communauté métropolitaine de Québec, c'est un projet en fait qui a été mené par André Tourigny et en collaboration aussi avec Émilie Raymond, qui a eu cours là, entre 2020 et 2025. Donc, ça visait là, finalement à soutenir des organismes existants dans la région pour favoriser l'inclusion. Ce sur quoi je m'attarderai là, plus particulièrement, ce qu'on a fait dans cette initiative-là, c'est qu'on a d'abord consulté les organismes qui étaient sur le terrain pour voir bon, comment ensemble on peut améliorer l'inclusion. Et on a travaillé en intersectorialité, donc avec plusieurs types d'organismes, avec un concept d'impact collectif. Donc, on croit que pour agir sur l'inclusion, qui est quand même un phénomène complexe, on doit être plusieurs types d'organismes à travailler ensemble. Puis Samuel a nommé des exemples intéressants aussi, là, avec entre autres Adaptavie. Si je reviens à ce qu'on a fait dans la région de la CMQ, là, la communauté métropolitaine de Québec, on a aussi fait ce qu'on a appelé les espaces citoyens, où là, on est allé rencontrer des gens qui sont à risque de vivre de l'exclusion et qui peuvent avoir des problèmes justement d'inclusion sociale. Mm-hmm. On est allé les rencontrer directement, ces personnes aînées-là, et on leur a demandé pourquoi elles se sentent mises de côté. Donc là, c'était intéressant parce qu'en parlant avec elles de façon très informelle, autour d'un repas, autour aussi d'une activité qu'on a fait avec un arbre où on est allé voir les racines, pourquoi on se sent mis de côté, mais aussi qu'est-ce que ça fait comme effet quand on se sent mis de côté. Donc, on est allé vraiment documenter ce qu'elles vivent. Puis je pense que pour favoriser l'inclusion sociale, il faut d'abord partir de ce que les personnes vivent. C'est aussi ce que Samuel fait dans ses travaux, là, je pense, d'aller chercher, puis de travailler en collaboration avec ces personnes-là, mais aussi les organismes avec lesquels, avec les organismes qu'elles fréquentent, finalement.
Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Mireille, dans le sens où, tu sais, moi, je peux bien avoir des bonnes idées ou être inspiré de choses qui se font à gauche, à droite, je sais pas, en Finlande ou au Brésil ou peu importe, mais moi, je suis pas un aîné avec des incapacités. Moi, tout ce que je sais faire, ben, je sais faire autre chose, là, mais c'est de la recherche, de la recherche partenariale. Fait que on a besoin de partir des besoins, des priorités puis des réalités vécues pour s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, ben, du moins favoriser que ce qu'on fait, finalement, ben, ça serve et ça réponde à des besoins. Je peux bien trouver mes idées bonnes, mais peut-être qu'ils serviront à rien.
Oui, je suis d'accord. Ça revient à l'idée du rien sur nous sans nous.
Ouais.
Donc, d'impliquer les personnes principalement concernées, c'est la base, c'est un défi. C'est vraiment un défi d'accompagnement. La participation des personnes aînées ou en tout cas, peu importe les personnes concernées, mais ça demande un effort d'accompagnement, d'un accompagnement personnalisé, qui s'intéresse à l'histoire de vie de cette personne-là, mais probablement aussi un accompagnement des organisations autour, tu sais, parce que ces organisations doivent être prêtes à recevoir cette parole-là, puis à la faire cheminer dans l'organisation pour espérer l'amélioration de services, que soient modifiées des politiques, que ça se traduise par un changement concret. Parce qu'à l'occasion des espaces citoyens, il y a des personnes aînées, puis on parlait de militance tantôt, qui disaient, oui, mais qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? Vous nous consultez, mais ça fait faire quoi à la fin? Donc, ouais, c'est ça.
Oui, c'est important que les gens puissent observer des retombées. Après, c'est bien de partager de l'information, de s'ouvrir, d'exprimer ses besoins. Après, c'est bien de voir si le communautaire, si certaines décisions gouvernementales, par exemple, peuvent aller, soient alignées finalement avec ce qu'eux sentent.
Oui, puis pour être capable d'arriver là, c'est bien beau de dire, je vais parler à mes communautés, je vais parler aux personnes aînées, aux gens qui ont des incapacités, aux intervenants pour être sûr que qu'est-ce qu'on fait, ça serve. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on les écoute bien? Est-ce qu'on a les dispositifs, les ressources, les environnements pour prendre le temps, bien les écouter? Est-ce qu'on entend vraiment qu'est-ce qu'ils nous disent ou on l'interprète puis on le traficote pour que ça nous serve après parce qu'il y a peut-être des considérations pragmatiques qui font que pour tel projet, tel financement, etc., c'est plus facile. Fait que, est-ce qu'on inclut vraiment les gens dans nos processus pour faire des solutions qui répondent à leurs besoins ou est-ce qu'on n'instrumentalise pas parfois? Il y a des outils qui existent là, pour mesurer ça puis évaluer ou éviter en fait, là, qu'on tombe là-dedans, mais c'est des considérations qui sont importantes. Puis il y a un coût à ça, il y a du temps aussi associé à ça. Ça prend des ressources humaines, ça prend des espaces adaptés. En recherche, comme dans le milieu communautaire, les ressources sont limitées, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de défis par rapport à ça. Puis un autre défi en lien avec ça aussi, c'est de rejoindre des gens qui sont parfois plus difficiles à rejoindre. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les gens qui sont en situation de vulnérabilité? Puis qui ne viennent pas à nos assemblées citoyennes? Qui ne viennent pas à mes groupes de discussion sur l'étude des besoins? Fait que, comment est-ce qu'on peut faire pour être réellement inclusif, finalement, pour que les solutions qu'on développe de soutien à l'inclusion sociale, à la cohésion, à la participation sociale, soient aussi informé de ces réalités-là, des gens à qui on a plus de difficultés à parler.
Effectivement, c'en est un, c'est un grand enjeu, je pense, de savoir que la clientèle à laquelle on s'adresse, c'est la clientèle peut-être à laquelle on a le plus de difficultés à parler, finalement, et à entrer en contact. Donc,
Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler tout seul dans nos bureaux. Hein? Comme Samuel disait, on a des bien bonnes idées, là, mais il faut vraiment travailler avec les gens de la communauté. Puis on travaille, entre autres, là, avec les organismes communautaires, mais aussi avec les travailleurs de milieu hein, qui s'intéressent à l'inclusion puis à l'isolement des personnes aînées et aux personnes en situation de vulnérabilité. Donc, travailler avec des gens qui sont sur le terrain, ça nous aide aussi à avoir accès, mais aussi pouvoir mieux comprendre ces phénomènes d'inclusion-exclusion.
Oui, c'est vrai, le travail de proximité. Puis pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Samuel, puis Mireille, bien, ça demande d'accepter de se remettre en question nos billets. Parce que travailler en collaboration, ça peut nous mener à nous sortir de notre zone de confort.
Oui, de sortir de la parfois.
Oui, exactement. Il y a les pratiques, il y a les logiques organisationnelles qui rentrent en jeu. Des dynamiques de collaboration aussi qui s'inscrivent sur un territoire X qui peuvent jouer sur les efforts à déployer. Oui.
Oui, je suis d'accord. Puis j'ai envie de les nommer aussi pour leur donner une vitrine. Mais moi, j'ai la chance de collaborer, oui, avec Adaptavie, que j'ai nommé tout à l'heure, mais aussi avec Servio, qui est un organisme pour les gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébrales. Je travaille aussi avec Sclérose en Plaques Canada, avec Moelle Épinière Motricité Québec, Intergénération Québec également. On a toutes des réalités différentes, même tous ces organismes-là, exemple, même s'ils sont issus du milieu associatif, chacun a son rythme, chacun a ses budgets, chacun a ses mandats, visions, réalités. Donc, d'arrimer tout ça, il faut prendre le temps de bien le faire. Sinon, on n'en arrive pas à des solutions qui sont respectueuses puis qui, au final, vont être utiles pour nous, pas pour nous, pour les aînés, merci, qui ont des incapacités et qui vieillissent.
Samuel, vous travaillez notamment sur l'importance des activités intergénérationnelles.
Oui, j'y crois beaucoup à ça.
Quels sont les bienfaits de ces activités, tant pour les jeunes que pour les aînés et même la société en général?
On n'a pas assez de temps pour que je fasse toute la liste. Mais écoute, les activités intergénérationnelles, en fait, ce que c'est le fait de mettre de manière intentionnelle des jeunes et des moins jeunes dans des contextes, dans des activités, là, peu importe, là, que ce soit scolaire, que ce soit de la cuisine, que ce soit du sport, que ce soit de l'accompagnement. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la directionnalité de l'intervention ou de l'action intergénérationnelle. Parfois, c'est les jeunes qui vont aider les moins jeunes, des fois, c'est les moins jeunes qui vont aider les jeunes, et des fois, tout le monde s'entraide là-dedans. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite et puis des réalités puis des capacités, de la santé des gens qui s'y impliquent. Mais les activités intergénérationnelles, en fait, là, les preuves sont plus à faire au niveau des données scientifiques là, par rapport aux impacts positifs que ça a autant chez les jeunes, par rapport, par exemple, au développement des aptitudes sociales ou à l'amélioration même du développement moteur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, au niveau même des apprentissages, de la performance scolaire, qu'au niveau des personnes, en fait, des générations plus âgées par rapport à la dimension physique, la dimension sociale, la dimension affective, la dimension cognitive, tout ce qui est la santé, le bien-être, tout ce qui est plus subjectif, même la diminution de l'exclusion sociale, l'amélioration de la participation sociale. Donc, toute la fonction vraiment concrète à l'expérience en fait, de santé plus subjective. Là. Et puis aussi, finalement, donc, jeunes, moins jeunes, et les activités intergénérationnelles ont aussi des effets là, bien, 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 bien prouvés sur les sociétés, sur les collectivités de manière générale, là, notamment pour créer des communautés qui sont plus solidaires, où il y a un tissu social, en fait, là, qui est tissé plus serré. Puis au final, ben, ça, tout le monde y gagne, là, évidemment. Puis les activités intergénérationnelles, elles sont d'ailleurs mises de l'avant avec la nouvelle politique gouvernementale La fierté de vieillir du gouvernement du Québec. Et puis dans le cadre de la décennie aussi de l'ONU, pour le vieillissement en santé sont aussi là, proposés comme une solution phare là, pour répondre à plusieurs des grands défis de société auxquels on est confrontés.
Mireille, justement, tantôt, vous parliez de littératie numérique. Peut-être que ces rencontres intergénérationnelles-là peuvent favoriser, justement, cette littératie numérique, peut-être, des personnes qui n'ont pas grandi dans cet environnement-là, mais...
Tout à fait. Mais je pense que l'intergénérationnel, là, puis tu me corrigeras, Samuel, mais il faut que ça se passe dans les deux sens. Hein? Oui. Fait que c'est pas seulement les jeunes qui viennent montrer exact. Comment faire aux personnes aînées. Je pense que c'est dans les deux directions. Fait que oui, c'est un exemple vraiment intéressant.
Bien, c'est un exemple, en fait, l'intergénérationnel. Là, exemple, si on prenait un programme intergénérationnel pour développer la littératie numérique, on pourrait avoir la présupposition que les jeunes générations sont plus outillées, ont davantage de compétences que les moins jeunes générations au niveau du numérique. Donc, on pourrait mettre ensemble des jeunes et des moins jeunes autour d'une activité numérique pour développer la littératie justement numérique ou la numératie des aînés ou des moins jeunes pour que justement après ils soient capables de trouver c'est où le club des minéralogies là, c'est quoi l'adresse puis où je vais pour ça et puis puis un élément important que je n'ai pas nommé là, puis qui est central pourtant là, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas nommé, des fois je suis niaiseux, c'est que les activités intergénérationnelles en fait c'est le plus puissant moteur pour rompre avec l'âgisme puis soutenir le développement des attitudes sociales en fait qui sont positives, donc diminuer la discrimination à l'égard de l'autre. Puis c'est dans les deux sens, hein. Ah les jeunes de nos jours, ah lui c'est un vieux. Fait que tu sais, ça c'est depuis la nuit des temps puis malheureusement ça risque de rester, mais je pense que si on donne plus de place aux activités intergénérationnelles, ben on pourrait tendre vers une diminution de ce genre de discours là.
Effectivement. Briser les stéréotypes, c'est pas une mince tâche. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un de nos proches est isolé? Comment on peut l'accompagner?
Il y a des initiatives, des projets, là, comme dans Charlevoix, la démarche a permis l'embauche, puis c'est tout récent, là, d'intervenants pour réaliser des visites d'amitié. L'idée des visites d'amitié, c'est pas récent, là, mais ça se faisait beaucoup sur une base individuelle. Mais ces intervenants-là réalisent des visites d'amitié, pas seulement pour la visite d'amitié, il y a comme quelque chose de plus. Il y a d'abord, d'établir le lien de confiance, et puis de s'ouvrir à l'histoire de vie de la personne pour tranquillement, avec ce lien de confiance-là, servir de levier. Tu sais, c'est vraiment privilégié. Là, quand tu entres dans une bulle à la maison, c'est fort, là, ce qui peut... Donc, c'est fragile, mais c'est ça, ça peut amener la personne qui accompagne, qui fait la visite d'amitié, peut tranquillement amener la personne à accompagner la personne vers une ressource, un organisme communautaire. Mais il y a aussi travail en collaboration avec les travailleurs de milieu, travailleuses de milieu, là, qui, eux, offrent un accompagnement plus ponctuel là, tu sais, dans la navigation des services. Puis là, tu me corrigeras, Mireille, là.
Oui, bien, les travailleurs de milieu ont aussi la responsabilité de repérer les personnes aînées isolées ou en situation de vulnérabilité. Puis là, ça, c'est tout un métier hein, qui s'est développé dans les dernières années. Bien, dans au moins les 10 dernières années. Puis il y a un programme maintenant du gouvernement provincial, là, le programme ITMAV.
Donc, on en forme de plus en plus.
Oui, ouais. Qui est Initiative de travail de milieu pour les aînés en situation de vulnérabilité. Puis les travailleurs de milieu ont vraiment cette tâche-là d'aller dans la communauté, repérer ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, ça peut être dans des lieux publics, mais ça peut être aussi en collaboration avec les organismes du milieu, avec, par exemple, les paroisses, les pharmacies, les organismes communautaires. Donc, ils ont cette tâche-là d'aller repérer les personnes aînées, puis ensuite d'offrir un accompagnement vers les services, mais toujours selon la volonté de la personne. Donc, ça, c'est vraiment important pour justement parler du côté de faire à la place d'eux ou même du paternalisme. Là. Puis je pense que c'est vraiment selon le choix de la personne où elle veut aller puis de quoi elle a besoin. Il faut le faire avec la personne. Oui.
Puis je rajouterais comme nuance, parce que évidemment, tu sais que c'est essentiel tout ça, puis je suis dans ces projets-là, donc évidemment, j'y crois aussi pour les personnes en situation de vulnérabilité, mais pour une personne aînée, par exemple, qui n'aurait pas envie de s'impliquer ou qui est plus difficile à mobiliser, l'équation ne veut pas dire qu'elle est nécessairement, elle, en situation de vulnérabilité. Elle n'a peut-être juste pas trouvé qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la forcerait ou la motiverait, finalement, tu sais, à s'impliquer dans une activité, une organisation, juste d'aller prendre une marche dans son quartier, ne serait-ce.
La motivation n'a pas d'âge.
Ben, exactement.
Il y en a qui sont moins motivés, peu importe leur âge.
C'est ça.
Et d'autres plus, oui.
Fait t'sais, quelqu'un qui voudrait motiver, exemple, sa grand-mère ou une personne moins jeune qu'elle voit peut-être perdre de capacité ou s'isoler de manière progressive ou qui est déjà isolée, ben si ça ne fonctionne pas, d'expliquer que la participation sociale, grand-maman, c'est important pour ta santé et pour ta promotion de vieillissement épanoui. Ça, ça se peut que ce soit un petit peu moins sexy, mais toi, tu le sais, fait que tu veux vendre comme ça, mais d'adopter peut-être l'angle de... Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? T'as-tu quelque chose? T'as-tu une passion? T'as-tu un rêve que t'as pas réalisé, grand-maman, dans lequel on pourrait tendre? Y a-tu quelqu'un que t'as pas vu depuis ça fait longtemps qu'on pourrait aller voir ensemble? Y a-tu comme une envie que t'as? Puis de passer par une motivation, une ambition.
Questionner le besoin de la
exactement,
personne.
Exactement. Puis après ça, d'aller voir.
Penser que ça serait bien peut-être, mais posons-lui la question
exactement,
directement.
Exactement.
Ouais. Puis les travailleurs de milieu, ils font le lien avec ce qui existe aussi déjà. Là. Parce que des fois, on peut être à la maison, puis se dire « Ah, j'aimerais faire quelque chose », mais on ne sait pas qu'est-ce qui existe dans notre localité, dans notre municipalité. Donc, il y a quand même des organismes qui nous aident justement à naviguer là-dedans puis à aller trouver les services dont on a besoin, puis aussi y compris les activités de loisirs là, et de participation sociale.
Un élément qui est important à aborder par rapport à la question du vieillissement, c'est que c'est pas vrai qu'un vieillissement, ça commence à 64 ans, 365 jours et quart. OK?
Non.
Fait que, qu'est-ce qu'on fait en amont quand on est jeune, quand on est adulte, quand on est adolescent, pour réfléchir, se projeter? Ça peut avoir l'air loin là, quand on a 20, 25, 35 ans, même ou 40 ans, des fois, le vieillissement. Mais quand on parle, justement, vous avez remarqué peut-être dans mes formulations, mais des fois, je dis pas aîné, je dis la génération jeune et moins jeune. Parce que quand on parle des aînés à des personnes aînées, ils vont pas se reconnaître. Pendant mon postdoctorat, on avait fait ce qu'on avait appelé une foire communautaire de la mobilité des aînés dans le quartier Côte-des-Neiges. Mais il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas parce que même s'il y avait 65, 70 ans, ils étaient comme « ben non, moi, je suis pas aîné. C'est pas pour moi.
Mm-hmm. »
Fait que tu sais, il y a cette étiquette-là aussi qui est une forme, en fait, au final, d'auto-agisme, d'auto-discrimination envers soi-même, envers qui on est, qui est aussi présent qu'on a des incapacités parfois, là, comme l'auto-capacitisme qui est tourné envers nous. Mais ça pour dire que c'est une des raisons pourquoi moi, je crois beaucoup aux activités intergénérationnelles dans les perspectives de promotion du vieillissement en santé puis de faire rencontrer les générations. Parce que les jeunes ont beaucoup à apprendre aux aînés, les aînés ont beaucoup à apprendre aux jeunes, mais j'ai un projet que j'ai fait avec Servio, l'organisme pour les personnes avec les séquelles de trauma crânien, qui visait justement à faire rencontrer deux générations de personnes qui ont des incapacités autour du vieillissement, donc le TCC, pour que justement les jeunes puissent initier une réflexion par rapport au vieillissement avec des incapacités, puisque c'est un vieillissement nécessairement qui, malgré eux, va être empreint de davantage de défis, étant donné les conséquences physiques, cognitives ou affectives sur leur réalité. Mais qu'est-ce qui est en fait encore intéressant du TCC, c'est que c'est pas parce que tu peux avoir 70 ans, mais ça fait 3 mois que tu as ton TCC. Tu peux avoir 25 ans, mais ça fait 10 ans que tu l'as, ton TCC. Fait que là, il y avait la conjoncture des personnes qui avaient l'expérience de vie, mais parfois peu d'expérience avec l'incapacité, et l'inverse, des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes, mais que ça faisait beaucoup plus longtemps que la moins jeune génération qui avait les incapacités. Donc, il y a beaucoup de nuances comme ça qui vont être intéressantes, puis je pense que l'intergénérationnel a beaucoup de potentiel pour soutenir la promotion de la santé puis l'inclusion sociale.
J'ajouterais peut-être là-dessus aussi que la participation sociale, là, c'est pas une obligation. Hein? Puis il faut vraiment... faut faire attention, je pense, à pas être prescriptif. Puis obliger les gens à faire des activités de loisirs qui leur tentent pas, là, je pense que ça aide personne, en fait.
Oui, c'est vrai.
Puis je pense qu'il faut pas non plus obliger à faire, par exemple, des activités d'engagement social comme du bénévolat. Je pense qu'on peut avoir un vieillissement très intéressant sans être bénévole dans 3-4 organismes. Là. Je pense qu'il ne faut pas que ça devienne, c'est ça, une prescription. On le sait que c'est une bonne idée, c'est bon pour la santé, mais il faut vraiment y aller avec les goûts de la personne puis ce qu'elle a envie, finalement.
Oui, si elle le souhaite, être en mesure, est-ce que je suis capable de participer si je souhaite le faire? C'est ça, c'est de mettre en condition, en place les conditions qui permet là, cette capacité-là.
Oui,
c'est ça.
Puis ça fait la boucle avec ce que Mireille disait au début comme définition par rapport à l'isolement versus la solitude. Moi, je peux être très heureux tout mon règne avec mon voisin, me faire un souper le mardi soir, puis je me sens pas seul, je me sens que je participe parce que je prépare à manger, je traverse l'autre côté dans l'autre appartement, puis on se fait une soirée. Puis pour quelqu'un d'autre, cette situation-là serait une détresse parce que la personne a besoin de faire une différence dans son quartier, de crier à l'assemblée, d'être au bénévolat, d'aider à la garderie tout en préparant des sandwichs à Noël pour je sais pas qui. Fait que, tu sais, il y a tous ces éléments-là qui sont à considérer. Fait que c'est un très bon point, Mireille, que t'apportes, là, que de pas être prescriptif puis respecter finalement qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui est porteur pour l'individu. Qu'est-ce qui lui fait du bien?
Ben, à la lumière de nos discussions, on comprend que l'inclusion sociale est un enjeu qui touche non seulement les aînés, mais bien l'ensemble de la population. on doit s'y intéresser, on doit trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et que globalement, nos sociétés tirent profit des compétences et de l'expérience de chacun, justement. Terminons peut-être l'entretien avec la question que nous posons à tous nos invités, c'est-à-dire si vous pouviez choisir n'importe quelle personne, morte ou vivante, avec qui vous aimeriez prendre rendez-vous et pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut...
Ben, je peux y aller, moi. Oui, je connais bien André Tourigny, mais je n'ai jamais eu la chance de m'asseoir avec lui pour un café. Fait que j'ai envie de nommer ce collègue que j'aimerais prendre le temps de rencontrer. Pour,
c'est un rêve accessible, je crois, Samuel.
Exactement. Pour voir ses activités, ses projets inspirants qu'il y a eu dans la ville de Québec, je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à prendre un café. Discuter, ouais. L'invitation est lancée.
Ben, je peux y aller, oui. De mon côté, ben, j'y allais simplement. Mes parents sont en Outaouais. Donc, okay. J'ai l'occasion d'y aller à l'occasion. Je vais à l'occasion. Pas plus souvent que ça, mais j'essaie d'être plus présent là, dans les derniers mois. Ils se font vieillissants. Moi aussi, je vieillis. Mm-hmm. Puis, je trouve ça intéressant de les voir vieillir. C'est un apprentissage, là, peut-être intergénérationnel. Mais c'est un lien important que je veux maintenir.
Absolument. Et vous, Mireille?
J'aurais le goût de dire ma grand-mère, qui est décédée il y a vraiment plusieurs années, qui a vécu tout le dernier siècle. Puis j'aurais le goût de m'asseoir avec elle, puis de jaser, puis de savoir qu'est-ce que tu penses du monde d'aujourd'hui. Puis je l'ai fait dans le passé, là, dans les années 80-90, mettons. Mais là, j'aurais le goût de revoir son regard sur la société actuelle. Je pense que ça pourrait être intéressant.
Mm-hmm. Ben, merci beaucoup à vous trois. Ça a été un grand plaisir de discuter et d'échanger avec vous aujourd'hui.
Et ça fait plaisir. Ouais,
merci.
Merci de l'invitation.
Ce balado était présenté par la Faculté de médecine de l'Université Laval en collaboration avec la Clinique du PEPS, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec. Desjardins est fier de s'être associé à cet épisode du balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval afin de freiner l'exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité. Sensibiliser nos aînés au risque de fraude, c'est investir au-delà de l'argent.